Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un deuxième extrait du roman de Colm Toynbee, Nora Webster. La musique est de Schubert, Impromptu, et la chanson Les petits gâteaux de Vincent Scotto. Nora ouvrit la porte. En passant devant elle, Jim lui remit furtivement une enveloppe. « Juste pour t'aider à passer le cap, » dit-il. « Et on n'en parle plus. »« Je ne peux pas accepter, Jim. Tu as déjà tout payé. »« Juste pour passer le cap. » Elle comprit alors que pour Jim, son retour au travail après 21 ans d'absence ne serait pas seulement une nouvelle bienvenue. C'était ce qu'il attendait d'elle. Avant de descendre les marches du perron, il se retourna et lui adressa un regard entendu. Jim connaissait tout le monde en ville. Elle se demanda soudain s'il n'était pas pour quelque chose dans la visite impromptue de Madame Vélan. Elle retourna s'asseoir dans le séjour. Après la mort de son père, les religieuses étaient passées voir sa mère pour évoquer l'avenir de Nora. Sœur Catherine, en particulier, avait demandé s'il ne serait pas possible de réunir la somme nécessaire pour payer les 3 années de lycée, après quoi Nora pourrait obtenir une bourse et faire des études universitaires qui lui permettraient de décrocher, à coup sûr, un emploi bien rémunéré dans l'administration. Sa mère, qui n'avait pas d'argent, avait sollicité les deux côtés de la famille, ce qui avait achevé de la brouiller avec eux. Nora étant connue pour son intelligence, il avait toutefois été possible de lui trouver un emploi de bureau. C'était ainsi qu'elle avait débuté chez Gibney. Elle avait 14 ans. L'année suivante, elle avait commencé à prendre des cours du soir en sténodactylo pour améliorer ses chances de promotion. Les premières années, elle versait l'intégralité de son salaire à sa mère, qui vendait des cigarettes à l'unité dans son petit magasin, et arrondissait ses fins de mois en chantant à la cathédrale à l'occasion des mariages quand les familles avaient de quoi la payer. Nora, sa mère et ses sœurs avaient ainsi vécu de presque rien en attendant que Catherine et Una quittent l'école et trouvent du travail en ville, en tant qu'employées, elles aussi. Nora était restée 11 ans en tout dans l'entreprise, à raison de 5 jours et demi par semaine. À la maison, elle supportait sa mère tant bien que mal. Au travail, elle se surpassait avec une efficacité dont certains se souvenaient encore. Puis, elle s'était mariée. Ses enfants étaient nés. Jamais elle n'aurait imaginé retourner là-bas un jour. Pour elle, Gibney appartenait à un passé révolu. Tout ce qu'elle avait gardé de cette époque était une amie qui avait fait un bon mariage, elle aussi, et qui avait par la suite quitté la ville avec son mari. Nora et Greta s'accordaient à considérer Gibney comme cette entreprise où elles avaient travaillé des années durant pour la seule raison que les circonstances ne permettaient pas de rendre justice à leur intelligence. Intelligence qu'elles avaient toujours pris soin de cultiver par la suite dans leur vie de femmes mariées. Elles pensaient à la liberté que lui avait donnée son mariage avec Maurice. Celle par exemple d'entrer dans ce séjour à n'importe quelle heure du jour, dès les enfants partis à l'école, ou dès qu'un bébé faisait la sieste, de prendre un livre et de le lire. La liberté d'aller dans la pièce de devant et d'observer la rue par la fenêtre, ou Vignar Hill de l'autre côté de la vallée, ou les nuages dans le ciel. Elle pouvait laisser ses pensées vagabonder, puis retourner dans la cuisine ou s'occuper des enfants quand ils rentraient de l'école. C'était une vie fluide, où les contraintes figuraient comme un élément parmi les autres. Elle avait beau être sollicitée, mobilisée, ses journées lui appartenaient. pas une fois, au cours des 21 ans où elle avait tenu ce foyer, elle ne s'était sentie piégée ou condamnée à l'ennui. Cette existence allait maintenant lui être retirée. Son seul espoir était que William Gibney n'ait pas en réalité de travail à lui proposer. Retourner à cette vie de bureau revenait à retourner dans une cage. Mais s'il lui faisait une offre, elle ne pourrait pas se permettre de la refuser. Ses années de liberté étaient finies. C'était aussi simple que cela. Elle relut les prières qu'elle avait choisies pour la carte de Maurice, et les mots l'arrachèrent un instant à ses préoccupations. Cette obligation de gagner sa vie, l'immensité de sa perte. Puis, elle les lut de nouveau, et ses yeux se remplirent de larmes. Elle était contente que Jim et Margaret soient partis, les garçons endormis. Elle relut les premiers mots. « Nous te les rendons, Seigneur, ô toi qui nous les as donnés. » C'était bien cela. Elle avait rendu Maurice. Il n'y avait rien de plus à en dire. Elle relut la deuxième prière. Certains ignorants disent de celui-là qu'il a été fauché dans la fleur de l'âge. Il n'a pas été fauché. Au contraire, il a été précipité dans la fleur, la plénitude de la vie, emporté loin de cette existence où nous attendons seulement que la mort nous trouve. Il en a réchappé, cet homme dont on nous dit qu'il fut frappé de malheur. Trop jeune pour mourir, disent-ils ? Trop jeune ? Non. Béni, plutôt, d'avoir été fait si vivement immortel. Il a échappé aux mains tremblantes de l'âge. Ces mots, pensa-t-elle, faisaient preuve de trop d'assurance. Où qu'il fût en cet instant, elle était sûre que Maurice se languissait d'elle et du réconfort de cette maison, comme elle se languissait de lui, elle qui avait tout donné pour effacer cette dernière année et que Maurice lui soit rendu. Le mercredi matin, elle alla en ville et s'entretint avec Bernie, la coiffeuse, d'une nouvelle teinture dont elle avait entendu parler, car elle se demandait si le moment n'était pas venu de s'occuper de ses cheveux gris. « Mais je n'ai pas envie qu'ils deviennent bleus, » ajouta-t-elle. « Je vois, » dit Bernie. « Et trop noirs, on verrait qu'ils sont teints. Et je n'ai jamais été blonde. Tout le monde en ville sait que je n'ai jamais été blonde. » Y aurait-il un châtain correct qui ait l'air naturel ? Peut-être. Bernie lui montra un emballage où l'on voyait une photo d'une femme brune et bouclée. Nora hésitait. On pourrait peut-être en mettre juste un peu, pour commencer. Bernie secoua la tête. Le mode d'emploi précise bien qu'il faut mettre tout le paquet. Je l'ai déjà essayé sur plusieurs clientes. Il a beaucoup de succès. Vous seriez étonné d'apprendre qu'il l'utilise. Après avoir appliqué le produit, Bernie posa sur ses cheveux un filet en nylon et la laissa avec une pile de magazines. Soudain, Nora s'aperçut qu'elle ne serait sans doute pas rentrée à temps pour préparer le déjeuner des garçons. Elle regretta son initiative. Bernie s'occupait de deux femmes qui étaient arrivées ensemble et semblaient devoir se consulter à chaque coup de ciseau. Nora essaya d'attirer son attention. « Ne bougez pas, j'arrive !» cria Bernie. Une fois le produit rincé, Bernie lui conseilla de ne pas se regarder tout de suite. L'effet définitif ne serait visible qu'après le brushing, dit-elle. Nora obéit. tout en sentant les regards appuyés des deux clientes qui suivaient attentivement les étapes du coiffage. Elle regretta de ne pas avoir pris conseil avant de se lancer. Mais auprès de qui ? Elle supposait que ses sœurs se teignaient les cheveux. Toutefois, elle n'avait jamais abordé le sujet en sa présence. Un coup d'œil au miroir lui fit réaliser que cette coupe était destinée à une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Les deux clientes le savaient, et c'était la raison pour laquelle elle l'observait avec tant de satisfaction. Plus le brushing avançait, plus cela prenait l'aspect d'une perruque, et la couleur mettrait longtemps à s'estomper. Bernie, dont elle apercevait le reflet dans le miroir, était à l'évidence enchantée du résultat. Il ne servirait à rien de se plaindre. « Ça ne fait pas un peu jeune ? Oh, ça vous va ! C'est une coupe très à la mode ! Je n'ai jamais eu de coupe à la mode. » Quand ce fut fini, elle mesura l'étendue du désastre. Toute personne qui la croiserait désormais penserait qu'elle avait perdu la tête et cherchait à se donner l'allure d'une jeune femme alors que son mari venait de mourir. « Il va vous falloir quelques jours pour vous habituer, » dit Bernie. « Mais personne ne garde ses cheveux gris de nos jours, c'est terminé. »« La couleur n'est pas un peu artificielle ?»« Ça va s'atténuer d'ici quelques jours. »« Et après, les gens penseront que vous avez toujours été ainsi. »« Vous m'avez l'air très inquiète, mais je vous assure que dès ce week-end, vous serez enchantée d'avoir franchi le pas. »« On ne peut pas l'enlever ?»« Non. » Mais elle s'estompera petit à petit, et je vous garantis que dans un mois, vous serez de retour pour le même traitement. Je n'ai jamais vu quelqu'un revenir au gris. La prochaine fois, on pensera aussi à faire quelques mèches pour éclaircir l'ensemble. C'est le dernier cri, tout le monde en raffole. Des mèches ? Oh non, je ne crois pas. Dans la rue, elle se redressa de toute sa hauteur, en espérant que les femmes de Court Street et de John Street seraient occupées à préparer le déjeuner. Qu'elle n'enverrait aucune sur le pas de la porte et qu'elle ne croiserait aucune connaissance en chemin. Elle dressa la liste des pires rencontres possibles. Les personnes qui déploreraient le plus vivement le fait qu'elle eût choisi de se teindre les cheveux, et encore alors que son mari était enterré depuis 6 mois à peine. Elle pensa à Jim, qu'elle devrait affronter dans moins d'une semaine, et Margaret, il serait terriblement dérouté. Soudain, elle reconnut Madame Hogan de John Street qui venait vers elle, l'air impassible, soit qu'elle ne l'avait pas reconnue, soit qu'elle espérait la dépasser sans un mot. Madame Hogan était presque arrivée à sa hauteur quand elle fit un bond et s'immobilisa, le visage chiffonné. « Eh bien, dit-elle, pour une surprise, il va falloir un moment pour s'habituer. »
Thank you.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles petites manières attiraient les clients. On aimait à l'extrême ses yeux de puits d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. En servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait ses petites brioches au lait. Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, peut-être vos suggestions aussi, pourquoi pas, à propos de ma chronique, en m'écrivant à ladiseusedemots@gmail.com. ladiseusedemots, tout attaché, @gmail.com. À bientôt.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.